bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. Bon, il serait temps de conclure. Au cours de notre exploration de l'histoire de l'île Dieu, nous avons mis en lumière que l'esprit rebelle des îlets ne date pas d'hier. Depuis l'Antiquité, ils ont lutté contre les continentaux qui voulaient leur dire à qui rendre des comptes, en quel dieu croire, et, pire que tout, combien d'impôts ils devaient payer. Cependant, à l'aube du 19e siècle, la possibilité même de cette résistance est menacée. Les bourgeois et les aristocrates en ont plus cassé que les masses populaires leur imposent leur volonté à coups d'émeutes et de révolutions. Il est temps de discipliner tout ce bas peuple. Et vous connaissez sûrement le nom de celui qui va apprendre la discipline à la France tout entière. Son nom est Napoléon, et il va sonner le glas de l'indépendance des îlets. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. Hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Historia Oya, l'épisode où toutes les bonnes choses ont une fin. Un jeune général ambitieux, Napoléon Buonaparte, assassine la Révolution une bonne fois pour toutes. La tête pleine de fantasmes de royauté, il veut faire de la France un empire à la mesure de son ego. Mais c'est compté sans les Anglais. Et oui, les insulaires tiennent à leur indépendance, et c'est le cas pour les Britanniques comme pour les îlets. Napoléon réunit alors une flotte dantesque pour envahir une bonne fois pour toutes la perfide Albion. Cependant, l'amiral Nelson surprend la flotte française au cap de Trafalgar et coule la majorité de ses navires. La marine française ne s'en relèvera jamais. Et de nombreux îlets ont certainement dû trouver la mort sous les boulets britanniques. Mais surtout, cette défaite oblige Napoléon à passer sur la défensive. Il craint une contre-offensive anglaise sur les côtes de France. Dès 1803, le général Bertrand reçoit la mission de préparer un plan de défense de la façade atlantique. Et évidemment, il se penche sur le cas de l'île Dieu. Ici, il n'est plus question de protéger des richesses ou de sécuriser des voies maritimes. C'est le destin de la nation tout entière qui est en jeu. Alors, on ne lésine pas sur les moyens. Dès 1804, toute une série de redoutes côtières sont construites, bientôt suivies par des fortifications autour du bois de Pierre-Levé. C'est le petit-neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, dit Napoléon le Petit, qui achèvera son œuvre en bâtissant, entre 1858 et 1866, la citadelle depuis laquelle je vous parle. Bon, au passage, il a dû détruire un menhir remarquable de plus de 8 mètres de haut, je vous en parlais lors du tout premier épisode, mais bon, les Bonaparte ne s'embarrassent pas de ce genre de considérations. Néanmoins, souvenez-vous également que les fortifications n'ont jamais empêché les Islay de faire du business avec les Anglais. Les gouverneurs successifs de l'île, à peine soutenus par une poignée d'invalides, n'ont pu que lever les yeux au ciel. Alors, on peut supposer que c'est pour tenir la bride aux Islay, autant que pour surveiller les mouvements anglais, qu'une garnison militaire est installée sur l'île par Napoléon. Sous le regard des soldats, il n'est plus possible de filouter, de passer un peu de contrebande, ou même d'organiser une simple manifestation. L'île va devoir vivre au rythme des rondes et des entraînements militaires. De la discipline, je vous disais. Mais, nous l'avions appris lors de l'épisode sur le Moyen-Âge, le pouvoir des armes n'est rien sans appui spirituel. Et justement, en 1804, Napoléon donne d'une main l'ordre de construire les fortifications de l'île-Dieu, et, de l'autre, il signe le Concordat. En effet, Bonaparte n'a alors qu'un seul objectif en tête, devenir empereur. Et, sur ce chapitre, il suit les pas de Charlemagne. Un empereur, ça a besoin du soutien de l'Église, et ça se fait couronner à Rome. Alors, fini les cultes de la raison et la liberté de conscience, l'Église redevient seule maîtresse à bord. C'est le début de la reconquête catholique. Il faut bien se rendre compte que si des églises et chapelles ont été saccagées pendant la Révolution, ce n'est qu'un symptôme d'un mouvement beaucoup plus profond. Depuis le XVIIe siècle, sous les coups de boutoir du protestantisme et de la libre pensée, le catholicisme perd peu à peu du terrain en France. Et dans ce grand mouvement de déchristianisation, nous avons déjà constaté que l'île-Dieu était loin d'être la dernière. Alors, en ce début de 19e siècle, l'Église est dans une mentalité de reconquête. Elle ajoute des armes à son arsenal spirituel. Ainsi, elle développe le culte marial grâce à la multiplication des apparitions de la Vierge. De nouveaux dogmes naissent également, comme l'infaillibilité du pape ou l'Immaculée Conception de la Vierge. C'est avec ces nouvelles cordes à leur arc que les prêtres reviennent sur l'île-Dieu. Et, à leur tête, se trouve Jacques Barbeau. Oui, le vicaire qui a refusé de prêter serment sous la Constitution et qui a été renvoyé sur le continent pendant la Révolution par les Islay, est maintenant le curé de l'île. On ne pourrait imaginer plus grande humiliation pour les Islay et leur nouveau maire, Amable Cadou, ancien curé défroqué et marié à l'une des meneuses du mouvement contestataire de 1791. En somme, les seigneurs de l'île-Dieu sont de retour, mais ils ont changé de stratégie. Il ne s'agit plus d'intimider par le faste et les châtiments, mais de discipliner à grand renfort de dogmes religieux et d'entraînement militaire. Et malheur à qui s'opposera à ce nouvel ordre. Au début du 19e siècle, les seigneurs de l'île-Dieu sont de retour. Les prêtres et les militaires ont remplacé les moines et chevaliers d'antan, mais la logique reste la même. On surveille les Islay pour qu'ils restent dans le droit chemin. Malgré tout, une question s'élève. De l'Antiquité à la Révolution, les Islay n'ont jamais arrêté de résister à ces envahisseurs. Alors pourquoi n'ont-ils rien fait au 19e siècle? La réponse est assez simple. On les a divisés pour mieux pouvoir régner sur eux. Revenons un instant à la fin du XVIIe siècle, pendant l'âge d'or de l'île-Dieu. Alors, les Islay vivaient de la contrebande et du cabotage sur la façade atlantique de la France. Pour cela, des barques de faible tonnage étaient suffisantes, et de nombreux Islay possédaient leur propre embarcation. D'après les témoignages de l'époque, sur l'île, il n'y avait ni pauvres, ni riches. Tout le monde vivait des terres agricoles de l'île, exploitées par les femmes et des quelques sous rapportés par les hommes de leurs expéditions maritimes qui avaient duré entre quelques semaines et plusieurs mois. Or, au tournant du 19e siècle, l'amélioration des voies terrestres tue à petit feu le cabotage. Les îlets doivent se reconvertir, soit dans les navires long courriers, c'est-à-dire dans le commerce à échelle mondiale, soit dans la pêche à un niveau industriel. Dans les deux cas, les sorties en mer sont beaucoup plus longues et les bateaux doivent être équipés de matériel spécifique, que ce soit pour pêcher le thon ou pour traverser les océans. Ainsi, la plupart des marins perdent leur indépendance. Ils dépendent à présent d'une poignée de riches îlets ayant suffisamment de ressources pour armer ces navires spécialisés. Fini l'esprit d'égalité et de liberté. À présent, il y a deux genres d'îlets. Ceux qui ont de l'argent et ceux qui rament. Les premiers ont intérêt à ce que la domination continentale continue. Les seconds ne peuvent plus s'y opposer. Mais les changements ne s'arrêtent même pas là. Sous Napoléon III, avec le développement des chemins de fer et des navires à vapeur, les connexions entre les différentes parties du territoire français sont plus fortes que jamais. Cela produit une transformation économique de taille. Jusqu'à présent, les différentes régions vivaient en autarcie. Mais là, elles se mettent à produire exclusivement un seul type de bien, devenant dépendant des autres pour le reste. Ainsi, l'île Dieu se concentre sur sa production de poissons, abandonnant peu à peu son agriculture jusqu'à laisser la forêt reconquérir l'île au début du XXe siècle. À présent, il leur faudra importer leur nourriture et leur artisanat depuis le continent. L'île Dieu devient dépendante du continent, et cette dépendance va croissante au fil du temps. Les îlets n'ont plus la possibilité de renvoyer les continentaux chez eux en cas de désaccord. L'indépendance et l'autarcie ne sont tout simplement plus une option dans le monde du XIXe siècle. Enfin, c'est à cette période que les vestiges de l'histoire de l'île Dieu disparaissent un à un. Le menhir de pierre levée, les restes de la villa gallo-romaine et bien d'autres sont oubliés ou détruits, souvent au nom de la modernisation de l'île. On peut imaginer que les prêtres en étaient ravis. Leurs dogmes catholiques et leur version de l'histoire pourront s'imposer sans obstacle. Une fois le passé de liberté et de résistance oublié, une fois divisés et rendus dépendants du continent, les îlets ne seraient plus qu'un troupeau obéissant, aisé à manipuler. Un mouton de plus à dévorer pour l'ogre de Corse et ses successeurs. En ce début de 19e siècle, le tableau est donc bien sombre pour les îlets. La présence des militaires, le retour en force du clergé et les transformations économiques les ont disciplinés et fait rentrer dans le rang. Après des siècles de résistance, les seigneurs continentaux ont finalement triomphé. Ultime insulte, notre île, si longtemps symbole de liberté et d'aventure, est transformée en prison. Triste symbole de la fin de la dépendance ilaise. Tout est-il donc perdu? Peut-être pas. Peut-être n'est-ce pas un hasard que des anciens de mai 68, galvanisés par l'esprit de liberté qui soufflait alors sur la France du général de Gaulle, aient choisi l'île Dieu pour s'installer. Peut-être n'est-ce pas un hasard si, lorsque Jean-Marie Le Pen voulait venir sur l'île pour rendre hommage au criminel Pétain, il a trouvé une foule d'îlets pour empêcher son hélicoptère d'atterrir. Peut-être n'est-ce pas non plus un hasard que l'île Dieu ait été l'un des derniers bastions de la pêche française et qu'elle est, aujourd'hui encore, l'un des tissus associatifs les plus denses de France, avec des services publics étonnamment performants par les temps qui courent. Au fond, les Ilais n'ont jamais vraiment oublié qu'ils étaient des contrebandiers et des pirates. Leur esprit rebelle et indomptable perdure encore aujourd'hui. Et, plus incroyable encore, tous les continentaux à s'être installés durablement à l'île-Dieu, même les militaires de Napoléon censés discipliner les Ilais, ont finalement adopté cette âme rebelle des insulaires. Comme si, par quelque influence magique, c'était l'île elle-même qui soufflait un vent de rébellion sur les esprits. D'ailleurs, finalement, dans les tensions entre touristes et insulaires, ne retrouve-t-on pas l'éternelle opposition entre les Ilais et les seigneurs continentaux ? L'enjeu est toujours le même, savoir lequel des deux tondra la laine sur le dos de l'autre. Alors, au terme de ces 7 épisodes, que vous pouvez retrouver en intégralité sur neptunefm.com, j'aimerais vous proposer un ultime mystère à résoudre. Pour justifier de discipliner et de mettre au pas les personnes un peu trop libres d'esprit, on fait souvent appel à la tradition. Mais, et si la tradition ilaise, c'était d'envoyer valser toute discipline ? On compare souvent l'île-Dieu à un navire voguant sur l'Atlantique. Peut-on vraiment marcher droit sur un bateau qui tangue ?
Pour la douceur de la veille et l'étoile de ma grand-mère, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Pour les souvenirs à Marseille et les yeux de mes grands-pères, je veux marcher droit, je veux marcher droit.
C'était le 7e et dernier épisode d'Historia Oya. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout du chemin. L'ensemble de la série est à retrouver sur neptunefm.com. C'était Martin. Je vous dis à très vite sur les ondes de Neptune.
Pour le dos tatoué d'un amour que je retrace dans son sommeil, je veux marcher droit. Oui, je veux marcher droit. Pour la petite que j'étais un jour, qui aimerait bien se voir vieille, je veux marcher droit. Oui, je veux marcher droit.
Voilà, je le dis, elle voit comme elle veut.